Nous célébrons la Pentecôte. Nous nous souvenons que le pardon et la grâce nous ont été transmis par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et nous relisons ensemble le texte fondateur de l'Église qui raconte comment cet Esprit a été abondamment répandu. Nous lisons donc dans le livre des Actes au chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble, ils sont dans un même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, semblables à des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit-Saint et se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Or, à Jérusalem, il y a en ce jour des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, en foule, ils se rassemblent. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa propre langue. Alors ils sont étonnés et pleins d'admiration. Et ils s'interrogent. Tous ces gens qui parlent sont galiléens. Comment est-ce possible de les entendre parler dans notre propre langue, la langue de nos parents? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène. Nous venons de Rome, de Crète, d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs, d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous, nous les entendons dans notre propre langue, en train de parler des choses merveilleuses que Dieu fait. Nous arrêterons ici notre lecture. Initialement, fête de la moisson, Pentecôte est une fête moins populaire que Noël ou Pâques. Pourtant, tous les chrétiens, de quelque confession qu'ils soient, aiment à se référer à ce texte de Pentecôte. Parce que, ne nous méprenons pas, le texte que nous venons de lire, c'est le texte fondateur de l'Église de Jésus-Christ. Mais, fort est de constater que tous ne s'y réfèrent pas de la même manière. Les uns s'émerveillent de ce que chacun en ce jour entend les croyants parler dans sa langue. D'autres sont fascinés par ce vent violent, par les langues de feu qui accompagnent les manifestations de l'Esprit de Dieu. D'autres encore sont impressionnés par le nombre de personnes. Si nous avions continué notre lecture, nous aurions appris que 3000 personnes 3000 personnes vont ce jour-là se convertir à Jésus-Christ. Une réunion de baptême va être aussitôt organisée et c'est 3000 personnes qui seront baptisées ce jour-là suite à la prédication de Pierre. Cette diversité d'appréciation est réelle, nous le savons, au sein même du protestantisme, et va jusqu'à se manifester dans la dénomination de certaines églises qui se qualifient de pentecôtistes ou se disent pentecôtisants. Toutes ces communautés, ou en tout cas pour ces communautés, l'événement de la Pentecôte n'est pas seulement un moment important du passé, mais c'est aussi un moment qui doit se répéter dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église, y compris dans certains aspects surnaturels, comme le don du parler en langue. Je ne veux pas entrer dans ce débat avec une position ou une autre. Je voudrais simplement répondre à la question: quelle place allons-nous faire, nous, en tant qu'Église, en tant qu'individu, quelle place allons-nous faire à la Pentecôte? Je propose de pointer, si vous le voulez bien, trois éléments de l'événement historique qui, à mon avis, gardent une pertinence aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a envoyé son Esprit pour constituer son Église. Et j'ai intitulé ces événements « L'attente persévérante des disciples ». Ensuite, nous verrons la présence puissante de l'Esprit et nous terminerons avec la proclamation vaillante de l'Église. Avant toute chose, ce qui surprend dans ce texte, c'est l'attente persévérante des disciples. C'est, à mon avis, la première chose frappante dans ce récit de la Pentecôte. C'est que cette dernière a lieu dans un climat d'attente persévérante et confiante. L'effusion de l'Esprit a fait l'objet d'une promesse ancienne, et l'apôtre Pierre, Philippe nous l'a rappelé tout à l'heure, cite le prophète Joël qui promet que le Seigneur enverra son Esprit quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, dit Jésus. L'Esprit qui provient du Père rendra témoignage de moi. Et qui dit promesse dit nécessairement attente. Attente avec confiance et persévérante dans sa réalisation. Je me souviens que lorsque j'étais fiancé avec Joël, quand elle m'avait fait la promesse de venir à notre rendez-vous, j'étais évidemment le premier et j'attendais. J'attendais avec persévérance, avec joie, peut-être pas avec calme, mais avec joie. Et c'est bien ce que font les disciples. Ils attendent parce qu'ils obéissent à l'ordre du ressuscité, qui avait dit quelques jours plus tôt: ne quittez pas Jérusalem, attendez ce que le Père vous a promis. Moi-même, je vous l'ai annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et leur attente, remarquez-le, elle n'est pas passive. Ils mettent à profit ces jours pour se réunir, pour renforcer leurs liens et prier avec confiance celui qui a fait la promesse. Et le texte biblique a cette très, 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 très belle expression: tous prient fidèlement d'un seul cœur. C'est dans Actes chapitre 1, verset 14. Et c'est là, dans cette attitude de confiance et soumise, que l'Esprit les trouve et les saisit. Et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose à retenir pour notre église d'Ozoir. Y a-t-il quelque chose à retenir de ce climat de naissance de l'Église universelle? Si, à l'évidence, car Dieu se plaît à accomplir son œuvre. Dieu prend plaisir à réaliser les promesses qu'il a faites. Quand il entend des prières confiantes, les prières confiantes de son peuple. Certes, la naissance n'a lieu qu'une fois, mais le principe de vie demeure. D'ailleurs, comme elle a reçu l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, l'Église continuera, selon le livre des Actes des Apôtres, à attendre avec persévérance, dans la prière, la réalisation des promesses de Dieu. J'en conclus donc que si nous avons reçu l'Esprit le jour où nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous restons dépendants de son action tout au long de notre marche avec lui, aussi bien individuellement que communautairement. Vivre selon l'esprit de la Pentecôte aujourd'hui, c'est attendre ensemble, dans une prière persévérante et confiante, la réalisation des promesses de Dieu. La présence puissante de l'Esprit. La deuxième chose remarquable dans ce récit, et qui ne peut échapper au lecteur, c'est le caractère extraordinaire de la naissance de l'Église. L'Esprit de Dieu est répandu d'une façon audible. Le vent violent est visible. Les langues de feu. Tout cela aboutit à une démonstration de puissance. Et se termine par le phénomène du parler en d'autres langues, comme l'avait annoncé le Christ. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. C'est la nature exacte de cette force que confère l'Esprit à ceux qui le reçoivent. Cette force, c'est celle de la présence du Christ dans la vie des disciples, selon ce qu'avait annoncé Jésus. L'Esprit de vérité sera toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Une présence qui transforme les disciples au point qu'ils se mettent à parler en d'autres langues. Des langues qu'ils ne connaissent pas. Mais aussi et surtout qui annoncent les merveilles de Dieu. C'est un miracle, nous le voyons, mais c'est un miracle qui n'est pas gratuit. Le miracle a un but, et le but, c'est de faire connaître la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Une présence, l'avez-vous noté ? Qui interpelle ceux qui les côtoient ce jour-là. C'est ensemble que tous sont étonnés, nous dit le texte, sans toutefois, nous l'avons vu, emporter l'adhésion de tous, puisque certains se moquent en disant « Ils sont ivres, ils ont trop bu ». Remarquons qu'en ce jour de fête à Jérusalem, qui draine des Juifs venus de toutes les nations, les langues sont le signe de la présence divine qui se manifeste au milieu de son peuple. C'est aussi l'annonce que Dieu veut accorder son salut, sa présence par l'Esprit aux nations, d'où viennent tous les Juifs rassemblés. En ce sens, la Pentecôte, c'est l'anti-Babel des temps anciens. Vous vous en souvenez ? Là, à Babel, l'Éternel avait fait échec à l'orgueil des hommes. Ils avaient mélangé leur langage où ils ne se comprenaient plus. Ici, à Jérusalem, le Seigneur annonce l'ampleur de sa grâce. Et tous parlent une langue étrangère que tous comprennent. Mais il y a, à Pentecôte, beaucoup plus qu'une question de langue. Parce que pour moi, la présence de Dieu dépasse cette manifestation déjà extraordinaire en soi. Le reste du Nouveau Testament insiste sur le fait que les manifestations de l'Esprit-Saint sont très diverses. D'autre part, il indique que ces manifestations traduisent une transformation complète de celui qui a reçu l'Esprit. Une transformation qui traduit clairement que la personne qui a reçu l'Esprit a été changée par l'amour du Christ. En mon sens, le récit de la Pentecôte conduit le croyant à se poser une question fondamentale. Le fait de parler en d'autres langues. Mais si nous regardons bien le texte, nous verrons que la réalité profonde que nous y voyons, ça reste quand même la plénitude du Saint-Esprit. Car il y a cette phrase qui pour moi est peut-être la plus importante de tout le contexte, et cette phrase, c'est celle-ci: tous furent remplis du Saint-Esprit. Et cela, regardez bien le texte, avant de parler en d'autres langues. Et la question que nous nous poserons donc ce matin, qui fut d'ailleurs posée au début de ce culte par Philippe: suis-je rempli de l'Esprit-Saint ? Habité par le Saint-Esprit, dès lors que nous avons accueilli le Christ dans notre vie, notre marche avec lui, notre vie d'Église doit aussi se dérouler sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est peut-être pourquoi l'apôtre Paul nous adresse cet impératif: soyez remplis de l'Esprit. Paul ne dit pas: dans la mesure où cela dépend de vous, essayez d'être remplis de l'Esprit. Mes amis, si c'est possible, essayez d'être remplis de l'Esprit. Mais l'apôtre Paul nous adresse cet impératif: soyez remplis de l'Esprit. Au fond, la seule forme, la seule puissance qui nous est indispensable, c'est la plénitude de la présence du Christ en nous, au milieu de nous. Une présence qui se manifeste de diverses façons, mais qui ne laissera jamais indifférents ceux que nous côtoyons. C'est une proclamation vaillante de l'Église. Enfin, je termine en indiquant la troisième chose étonnante dans ce récit. Ce qui m'étonne dans ce récit, c'est le courage avec lequel l'apôtre Pierre témoignage de la résurrection de Jésus. Quand on connaît les craintes, l'abandon et même le reniement en ce qui concerne notre ami Pierre, on se dit qu'après la résurrection de Jésus, chez les disciples, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un truc qui se passe. Car de la peur des disciples, la peur d'être découvert, la peur d'être arrêté, la peur d'être maltraité, la peur peut-être même d'être crucifié, on passe à l'autre étape inverse, au point où on entre en flagrant conflit avec l'autre. Faites ce que vous voulez. Pour ma part, je continuerai à prêcher. Dire à Jérusalem, non loin des lieux du drame, à portée des féroces gardiens du temple, devant une foule qui est directement concernée, devant une foule qui est mi-étonnée, mi-moqueuse, se payer le culot de dire à cette foule et de dire aux pharisiens, ce Jésus, c'est vous qui l'avez crucifié, c'est vous qui l'avez mis en croix, et Dieu l'a fait Jésus. Dieu a fait de ce Jésus le Christ, le Seigneur, en le ressuscitant. Dire cela, c'est faire preuve d'un courage. Un courage qui vient d'en haut, et c'est aussi, je le crois, faire preuve d'une inspiration. D'une inspiration qui ne peut que venir de l'Esprit-Saint. Souvenons-nous que Pierre n'avait aucune instruction, que Pierre n'avait jamais fait d'études. L'Église est née, frères et sœurs, l'Église est née de cette proclamation vaillante. Et je dis, moi, en ce jour de Pentecôte, que l'Église ne peut vivre et ne peut se multiplier que si ceux qui la composent sont animés par le même esprit. Si ceux qui la composent proclament cette même vérité avec ce même courage, le Saint-Esprit n'a pas été donné aux disciples simplement pour que leur vie soit transformée. Le Saint-Esprit a été donné pour que cette transformation suscite des réactions autour d'eux et les conduise à témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que notre tendance, pour ne pas dire notre tentation, c'est parfois, et c'est même très souvent, de nous replier sur nous-mêmes et de faire de notre foi une affaire si personnelle que nous n'en parlons à personne. Les événements de la Pentecôte, frères et sœurs, viennent utilement nous rappeler que le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nous, que nous parlions à d'autres de l'amour de Jésus-Christ, pour que nous parlions de sa grâce, de sa puissance de salut qui peut transformer des vies éprouvées. Ce que Pierre a fait, nous pouvons modestement le faire avec l'aide du Saint-Esprit qui nous a été donné. En débutant cette méditation, j'ai proposé de répondre à la question « Quelle place allons-nous faire à la Pentecôte aujourd'hui ? Il me semble que le texte des Actes invite les croyants que nous sommes à prier. À prier d'abord avec confiance et persévérance, que Dieu continue à accomplir ce qu'il a promis en Jésus-Christ. Il nous invite ensuite à désirer ressembler toujours plus au Seigneur en cherchant à être remplis de l'Esprit-Saint. Il nous invite enfin à témoigner simplement et courageusement de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à tous ceux et à toutes celles qui nous entourent. Que l'Esprit de la Pentecôte, qui a fait naître en ce jour l'Église, la fasse vivre ensemble, encore et toujours, pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, veux-tu t'engager dans la plus grande entreprise de l'histoire humaine, qu'est l'Église ? Il y a de la place. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a pas de chômage. Amen. Nous allons prier ensemble. Père, nous te remettons nos vies. Fais de nos vies ce que tu veux, Seigneur. Elle t'appartient. Nous puissions témoigner de toi avec force. Parce que la vie avec toi, ça vaut vraiment la peine d'être vécue. Amen.